Radiophonique.
La charrette fantastique, c'est le titre d'une série d'émissions que les Chemins de la Connaissance ont consacré à la symbolique des antiques charrettes de nos campagnes en 1983. Une réflexion qui convoque folklore, légende, contes populaires et aussi le cinéma dans le quatrième épisode de cette série que vous allez entendre dans un instant. Que nous annonce le grincement des roues de la charrette sur le grand écran ? Peut-être les désordres du monde dans la charrette fantôme de Julien Duvivier en 1939. Peut-être encore une infinité de symboles liés au passage dans les films de Stanley Kubrick. Voici donc le quatrième épisode de la charrette fantastique dans les chemins de la connaissance.
I'm a good old rebel soldier, and that's just what I am. For the Yankee nation, I do not give a damn. I hate the starry banner, it's stained with southern blood. And I hate the pison Yankees and fit them all I could. I hate the Yankee nation and the uniform of blue. I hate the Constitution, oh, this great republic too. I hate the mighty eagle with all its brass and fuss. Oh, the lion Yankees, I hate them worse and worse. I can't pick up my musket to fight them anymore. But I ain't gonna love 'em, and that is startin' show. And I don't want no pardon for what I've done around. And I won't be reconstructed, and I do not give a damn.
Oh! Laissez-moi descendre de cette carriole.
Dans la transcription cinématographique du célèbre roman de Selma Lagerlöf, La charrette fantôme, par Julien Duvivier en 1939, on voyait Louis Jouvet conduire la sinistre charrette des morts, charrette dont les cieux grincent. L'image de son visage saturnien éclairé par une lanterne en forme de polyèdre sortie d'une gravure d'Albert Dürer est encore dans nos mémoires. Pareillement à celle de Lankou, les cieux de cette charrette grincent. En fait, ce film nous laisse deviner que la charrette est à l'image de la société. Son essieu grince, cette charrette boite, car la société est boiteuse. Les êtres se mentent les uns aux autres et se mentent à eux-mêmes. Ce monde ne tourne pas rond, il est grinçant comme il est grimaçant. Si les hommes étaient maîtres d'eux-mêmes, de leurs pensées, de leurs actes, ils seraient maîtres de leur destin, ils seraient alors ce que l'Inde nomme des chakravartines, des seigneurs de la roue. Ils seraient non à la périphérie du monde, et donc voués à être écrasés par la roue du destin, la roue de fortune ou plutôt d'infortune, mais ils seraient au moyeu de la roue. On peut donc dire, Jean-Pierre Troadec, que dans ce film de Duvivier, la charrette est l'image symbolique des êtres et du monde. La charrette en tant que symbole du labeur des êtres, cette charrette ou ce chariot, je pense en particulier au western, charrette que l'homme charge de ses joies et de ses peines, cette charrette qui porte le poids de leur existence, eh bien, comment traverse-t-elle l'écran? Comment l'œil de la caméra la voit-elle?
Eh bien, je pense que vous me donnez déjà, par cet avant-propos, une espèce de réponse. Vous parlez de joie et vous parlez de souffrance. C'est peut-être déjà le soleil dans les larmes, c'est déjà l'image de l'enfance. Car si l'on veut expliquer finalement l'attrait de la charrette au cinéma, pour le spectateur, c'est à une image d'enfance que l'on est renvoyé, celle où le petit enfant éventuellement monte dans la charrette pour son plus grand plaisir. Vous évoquez la roue, elle peut expliquer ce mouvement de passage dans la charrette. Et évoquer déjà le terme de passage, c'est suggérer une forme d'initiation. Roue, Bobine, tournoiement, tout ce vocabulaire renvoie à une thématique filmique. Et l'enfant que le spectateur demeure, ne serait-ce que par le fait qu'il va s'enfouir dans une salle obscure, c'est-à-dire qu'il retrouve la chambre noire des frayeurs et des joies, des petites peurs de l'enfance, la caméra en latin, tout cela nous montre qu'il y a un résidu d'enfance qui sommeille en tout spectateur. Et revoir la charrette au cinéma, c'est retrouver par le biais, finalement, de ce mouvement de la bobine, des roues, le moyen, envers du moyeu que vous évoquiez tout à l'heure, d'une retrouvaille avec un passage possible. D'autant que le merveilleux est ici redoublé, parce que ce que l'on voit, c'est une charrette irréelle ou qui trouve sa réalité dans les réalités. C'est-à-dire tout ce domaine du songe, ou ce domaine qui se situe entre songe et mensonge, dans un espace donc limité aussi de franchissement, qui fait que tout ce qui est enfoui dans les strates de l'enfance, émergé de la terre que surplombe la charrette, eh bien, vient ainsi donc à ressurgir, s'exhume. Parce que la charrette, justement, suppose aussi cette espèce d'émanation de la terre par son lien avec tout ce qui est végétalité. Car il faudrait aussi dire beaucoup de choses de ce bois premier, de cette sève et de tout ce qui peut expliquer, on le verra tout à l'heure, très lointainement, toute la phénoménologie de la charrette, donc à partir de la racine jusqu'au bois qui flambe sur le bûcher. Il me semble, alors, pour répondre à votre première question, qu'est-ce qu'il a fait crever l'écran? Eh bien, je crois que c'était cette espèce d'ensemble, détachable toutefois. Parce que la charrette aussi, c'est ce qui se démantibule. Et pour l'enfant, qui a toujours le plaisir du mécano ou du Lego, elle représente une espèce donc de possibilité de désarticulation. Or, l'enfant a toujours désir de mettre bout à bout des éléments explicatifs, d'établir des conjonctions, comment c'est fait, comment ça marche. Et je crois que la charrette qui tourne, c'est-à-dire qui déploie dans une espèce donc d'horizontalité contournée l'espace, représente ce mystère, car la charrette aussi n'est pas une invention nouvelle et elle fait partie d'un progrès de l'humanité, au terme duquel le cinéma représente une sorte de pointillardien.
Mais avance pour vieux.
Alors, vous parlez d'espace, il y a la notion de distance. Nous avons, par exemple, dans l'esprit, cette charrette ou ce chariot des westerns que l'on va apercevoir, point minuscule dans l'immensité d'un paysage, ou alors cette charrette, ce chariot occupant tout l'écran, que l'on voit brinque-ballante, symbole, dites-vous, lors d'une conversation, de la fragilité ou de la fragilisation des êtres. Et vous évoquiez Jeanne d'Arc, vous évoquiez Mandrin, et qui va mourir sur une route charrette, ou encore le Danton de Vajda.
Oui, il y a beaucoup de choses à dire de ce point de vue-là. Je crois, pour en revenir un instant...
Distance et limite,
oui,
en fait.
Oui, c'est cela. Au thème de l'enfance, que ce qu'il y a en réduction, c'est le thème de la métamorphose. Car, en fait, si l'on regarde un petit peu du côté des contes, on s'aperçoit que la charrette peut être métamorphose d'une citrouille et inversement. Alors, parler de Danton, parler de Jeanne d'Arc, c'est tout le thème, justement, ontologique de l'être au cœur même de ce bois qui peut mener au supplice. Et Jeanne d'Arc est aussi objet ou sujet de la métamorphose, Danton tout autant, en franchissement de la limite. Du point de vue moral chez Jeanne d'Arc, par exemple, dans la mesure où elle représente une force morale qui va s'ébranler sur le pavé, qui peut la conduire donc d'un lieu de réclusion d'enfermement, à un terme où la charrette va retrouver le rouge du fond de la terre, de ses racines, pour flamber. Dans le cas de Danton, dans l'ébranlement d'une force physique. Si l'on songe au film de Vaïda, en particulier, on voit Gérard Depardieu très colossal, justement. Non pas peut-être être abattu, car il reste fidèle à ses idées, mais tout de même ébranlé dans sa force physique. Enfin, voilà un doublet qui peut effectivement rejoindre aussi cet état de fragilisation, d'autant que la charrette a également une vertu transitionnelle, puisqu'elle mène d'un lieu à un autre, et que le cinéma est très révélateur de ce point de vue-là, et c'est un élément extrêmement pratique pour, d'un point de vue technique, faire passer un personnage d'un point dans un autre. Et alors, il y aurait beaucoup à dire, justement, sur cette fonction articulatoire de la charrette.
Il n'y a rien devant nous, la route est libre.
Bien. Alors, dites-leur d'avancer pendant encore 10 kilomètres.
À vos ordres.
En avant!
Cette fonction, cet aspect transitionnel, nous le découvrons dans le dernier film d'Ingmar Bergman, Fanny et Alexandre, où apparaissent de multiples images de charrettes. Il y a la charrette funèbre, une charrette à bras, sur laquelle le père d'Alexandre est transporté agonisant. Il y a des charrettes joyeuses, celles qui accompagnent les traîneaux circulant dans la neige, la nuit de Noël, charrette lumineuse puisque tout éclairé de flambeaux. N'est-ce pas? Il y a ces charrettes qui passent devant des porches de la maison des Heckdal, c'est-à-dire de la famille sujet de ce film. Donc, image transitionnelle, comme vous le dites. Et puis, il y a surtout une charrette qui, à un moment bien précis de l'action, transporte un personnage extraordinaire, un oncle d'Alexandre, c'est le vieil Isaac. En fait, je crois qu'il faut resituer l'action et tenter une interprétation symbolique, on pourrait même dire une interprétation alchimique, de ce moment du film. La mère de Fanny et d'Alexandre s'est remariée avec l'évêque protestant. Et ce personnage suscite bien vite l'antipathie du spectateur. Par exemple, il exige que son épouse abandonne toutes ses parures et surtout que les enfants oublient leurs jouets. Et bientôt, Fanny et Alexandre sont enfermés dans l'évêché, univers qui ressemble davantage à une prison qu'à un monastère, murs blancs, portes verrouillées, barreaux aux fenêtres, et Fanny et Alexandre, nez collé à la vitre, voit dans l'eau qui bouillonne sous l'évêché, c'est d'ailleurs vous-même qui me rappeliez cette image, le squelette d'un cheval. Or, s'il y a cheval, la charrette n'est pas loin, mais c'est encore une image de mort. On pourrait dire que l'accumulation de toutes ces images campe un univers saturnien. Dans l'imagerie alchimique, les portes verrouillées, les barreaux, l'emprisonnement, les os, le squelette, illustrent le monde de Saturne. Et l'évêque, personnage austère, sévère, brutal, se laisse finalement interpréter comme une hypostase de Saturne, une sorte d'ogre qui emprisonne le monde de l'enfance. On ne peut, dit l'alchimie, se libérer de Saturne et de ses prisons que par une intervention de Mercure. Mercure, dieu ailé, dieu de la vélocité, et dans le film, la figure mercurienne, c'est bien, c'est l'oncle Isaac. Il vient faire s'enfuir, ou plutôt s'envoler, Fanny et Alexandre, en les volant. Il les cache dans un grand coffre que l'évêque lui vend. Mercure, justement, passait pour le dieu des voleurs. Nous connaissons le jeu de mots rapprochant le vol, la subtilisation d'une chose, et le vol, c'est-à-dire l'envol. Or, Isaac Mercure arrive chez l'évêque, l'évêque Saturne, sur une charrette. Vous vous souvenez de la scène ?
Très bien.
Il est assis sur un fauteuil orné de figures ailées. Et les enfants, ravi dans les deux sens du terme ravir, n'est-ce pas, ravi de s'enfuir et ravi par Isaac, repartent sur cette même charrette. Ils seront cachés un temps chez Isaac. Or, Isaac est antiquaire. Il fait commerce de marionnettes et c'est tout un peuple de marionnettes venues des quatre coins du monde qui s'entassent chez lui. Il y a même aussi une momie égyptienne, une momie qui mystérieusement respire et tourne la tête. Alors tous ces pantins, dont certains, à l'instar de la momie, bougent tout seuls, Alexandre les découvre avec émerveillement et terreur, et peut-être devine-t-il que tous ces pantins symbolisent toute l'humanité. Une humanité de pantins, comme sont des pantins tous les membres de sa famille, sauf Isaac. Isaac et ses deux neveux, Aaron et Ismaël, qui, nous l'apprenons, pratiquent la magie. Isaac, Aaron, Ismaël savent, eux, que des fils invisibles animent la momie ou le monde des vivants. Aaron dit à Alexandre que, pour le vieil Isaac, le monde est constitué, je cite, « de réalités concentriques où les hommes et les esprits trouvent leur place ». Et cette image des réalités concentriques, eh bien cette image nous renvoie à la route Charette qui ne tracera pas le même destin pour chaque être. Charette qui sera tragique pour les uns, ou subtilisatrice, subtile, favorable d'envol pour d'autres. À la fin du film, nous voyons toute la famille des Hegdal, la famille d'Alexandre, qui est réunie autour d'une grande table ronde couverte de mets et de fleurs pour célébrer une double naissance. La roue des renaissances, dirait l'Inde. Un oncle d'Alexandre, un personnage faunesque, grand trousseur de jupons de soubrette, incarnation de l'épicurisme, eh bien, vous vous rappelez de la scène, ce personnage tourne autour de la table ronde où est rassemblée toute la famille, en prononçant un discours duquel il ressort que les membres de cette famille des Hegdal ne sont pas faits pour le monde métaphysique, mais doivent au contraire vivre au contact de la simple réalité et des joies de ce monde. Cette table ronde trace le cercle de la réalité la plus petitement humaine, la plus extérieure, dirait le vieil Isaac. C'est la roue de l'apparence des choses, c'est la roue de la matérialité. Mais porté par les roues de la charrette, ailée, pourrait-on dire, d'Isaac, Alexandre est entré dans un autre cercle. Chez Isaac, il rencontre un garçon de son âge, Ismaël, ou peut-être est-il un peu plus âgé, mais peu importe, personnage que l'on croit fou et qui vit enfermé dans une chambre, donc qui n'est plus en contact avec la réalité extérieure. Ismaël apparaît comme une créature quasi-angélique, et justement, son caractère angélique ne lui permet plus le contact avec le monde de la basse réalité. Or, Ismaël se révèle être le double d'Alexandre. À un moment donné, il dit à Alexandre d'écrire son nom, Alexandre Hegdal. Alexandre s'exécute et c'est en fait le nom et le prénom de ce personnage qu'il écrit. Celui qui va libérer Alexandre de son beau-père l'évêque, c'est Ismaël. Il va lui permettre de tuer à distance, magiquement, le dieu Saturne. Ismaël, lui, n'appartient plus au monde des réalités, il n'appartient plus aux réalités en rotation avec le monde extérieur. On pourrait dire qu'il est au moyeu de la roue, il est déjà hors du temps. Et cet aspect du double, je crois, vous intéresse particulièrement.
Oui, mais il y a beaucoup de choses qui m'intéressent dans tout ce que vous avez dit. Parce que vous faites une somme du film tout à fait considérable et très juste, à laquelle je souscris entièrement. Et peut-être même au cœur de tout ce que vous avez dit, toutefois, nous pourrions trouver deux idées pour nous en tenir strictement à la charrette. D'une part, l'image du cheval, et d'autre part, l'image des cercles concentriques. Alors, l'image du cheval, vous dites image de mort, je crois que...
Sous l'aspect de squelette tel
oui,
qu'il apparaît...
Mais si l'on renvoie, par exemple, si l'on se réfère à l'Ankou, c'est une charrette donc tirée par un cheval et un cocher qui a un aspect mortuaire. Ce n'est pas tellement le cocher qui signifie la mort par son apparence, mais c'est l'image même du cheval, parce qu'en breton, le cheval, c'est mar. Et le mot serait à l'origine du terme cauchemar. C'est également un terme qui est très proche du mot morse, la mort, ou marée, la mer. Ce qui fait que c'est un animal qui est au cœur de tout un réseau de significations et qu'il interfère avec un certain nombre de données de l'univers existentiel de l'homme, la vie et la mort, mais aussi donc la mer, l'univers marin. Et bien entendu, dans le contexte celtique, il prend une signification tout à fait prégnante de ce point de vue-là. Alors, pour ce qui est des cercles concentriques, effectivement, nous touchons là au cœur aussi de la charrette, parce que, et de la charrette au cinéma, parce que ce qui nous frappe, ce qui amuse l'enfant et même l'adulte également au cinéma, même de nos jours, malgré les moyens techniques dont on dispose, c'est de voir les roues tourner à l'envers. Or, il y a là aussi une image du merveilleux, car nous savons que la charrette avance malgré ce mouvement inversé qui est peut-être le nôtre d'ailleurs, car plus nous avançons dans la vie, plus nous nous rapprochons de la mort. Et ce mouvement physique, cette esthétique filmique est proprement ontologique. Preuve en est que Platon s'y est déjà intéressé. Parce que si l'on regarde du côté du politique, il évoque dans le politique le mystère du mouvement inverse. Point de vue sur lequel il revient d'ailleurs dans le livre 4 de la République, où il évoque, à moins que ce ne soit dans la politique, il me semble bien, ou dans le Phèdre, je crois bien que c'est dans la République, il évoque la toupie. Et lorsque la toupie donc se prend à avoir un mouvement inversé, eh bien c'est toute l'existence de l'homme finalement donc qui s'y trouve reflétée. Ce qui fait que ces cercles concentriques que vous évoquez et que l'on trouve chez Berkman sont très révélateurs de cet enfermement de l'homme qui est amené à s'avancer vers un point qu'il ignore, cette espèce de point aveugle, de bulle, telle qu'on la trouve chez Faulkner, d'ailleurs, qui a cette image aussi assez terrible. Exactement. À propos de la jument, même une jument est une espèce d'homme, dit-on, dans Lumière d'août, de William Faulkner. Ce qui fait que le cheval rapproché de la charrette, avec en plus là le fait qu'il ne s'agit même pas d'un cheval mais d'une jument, hein, chez Faulkner, un double point de vue, le point de vue de l'animalité, deuxièmement le point de vue de la différenciation donc de genre, eh bien est proche, reste proche de l'homme. D'abord c'est un animal psychopompe, hein, il suffit de penser à Cocteau et à ce qu'il en a fait dans le Testament d'Orphée. Oui. On trouve donc une proximité du cheval et de l'homme donc très précise, très très étroite.
Illustrée aussi par la figure du centaure.
Oui, hein, tout à fait. Et ce cheval est prisonnier également, car le malheur du cheval que découvre Fanny et Alexandre, c'est le cheval crevé, hein, c'est-à-dire qui ne peut plus être poussé par la charrette, car ce que je crois qui fait la grâce aussi de la charrette, c'est qu'on a l'impression, il faudrait évoquer Brassens, hein, qui pousse le cheval. Hein, la charrette allait poursuivant sa belle petite queue sauvage, vous connaissez la chanson. Hein, ou bien inversement, ce qu'en a fait Brassens aussi à propos de Francis James, hein, le pauvre âne, s'effondrant sous le chariot qu'il traîne. Hein. Il y avait une sorte de rupture là entre justement l'animal et l'objet donc, dont il est solidaire. Je pense même qu'il serait tout autant solidaire de la souffrance de l'homme que de sa joie. Joie sans doute dans le contexte du milieu de l'enfance, mais souffrance aussi car le cheval est exploité, il ne faut pas l'oublier. Et il y aurait une image ici qui serait dommage de ne pas évoquer, c'est celle de la sueur, qui nous renverrait du reste à la roue, car si l'on regarde un cheval, on s'aperçoit que c'est un animal qui sue dans l'effort, et que la charrette qui lui est associée très souvent est une charrette également poussive ou souffrante, et dans le contexte justement de seuil que nous évoquions tout à l'heure, avec toutes les connotations d'ailleurs de franchissement et d'initiation, car le seuil en latin c'est limen, c'est-à-dire l'espace liminal de franchissement, mais c'est aussi l'hymen, c'est-à-dire l'espace du mariage. Et le fait que les mariés montent dans la charrette, d'un point de vue de l'alchimie des lettres, est tout à fait explicable de ce point de vue-là. Ce qui fait que la charrette au cinéma est en franchissement de ce seuil, souvent d'ailleurs boueux, car le limen, c'est aussi le limes, c'est-à-dire le limon, le limousse. Eh bien, la charrette est souvent vue au sommet d'une côte. Je pense à un beau film où la charrette est substituée à bien des moments à la barque, dont il y aurait beaucoup à dire également, comme substitut de la charrette. Dans les îles, on voit une charrette franchissant...
Le film de Azimi.
D'Azimi, oui. Franchissant difficilement une espèce donc, d'escarpement de terrain. Eh bien, le cheval est ce qui fait bouger la charrette et il est solidaire de tout cet effort de l'homme dans son activité laborieuse. Et on pourrait presque appliquer à cette vision de la charrette les propos de Barthes dans ses mythologies à propos du Jules César de Mankiewicz, où il dit les Romains représentent toute une époque, ce qu'on voit dans le film, complot, on les voit suant, la mèche sur le front dégoulinant, tandis que Jules César, qui est l'objet du complot et qui ne sait rien, ne sue pas. Or, ceux qui suent savent, car suer, c'est transpirer. Qui transpire, conspire. Eh bien, le cheval, d'une certaine façon, fait partie lui aussi d'une espèce d'économie de la sueur, peut-être pas sur le plan, effectivement, de la complicité, si ce n'est amical avec l'homme, mais sur le plan de l'activité laborieuse, d'autant qu'il a une mèche, lui aussi une frange, une espèce de toupet, qui le rend extraordinairement sympathique de ce point de vue-là.
Labeur, de la sueur et du labeur, nous pourrions, lié à la charrette, nous pourrions le retrouver dans des images de Stanley Kubrick, 2001, Odyssée de l'espace, et cette roue de charrette présente dans la cour de ferme, symbole justement de tout ce labeur, de toute cette activité des hommes, cette roue de charrette, ne pensez-vous pas, Jean-Pierre Troidec, qu'elle devient ce satellite en forme de roue qui poursuit le labeur des hommes, non plus sur les champs de la ferme, entourant la ferme, mais dans l'immensité cosmique?
Oui, c'est le déplacement du champ terrien dans le champ des étoiles. Et il me semble qu'il y a là une espèce de projection au ciel de nos rêves à travers cet objet qui est, dans son tournoiement, déjà une forme de soleil sur Terre. Le fait que l'on voit sur des barrières, quelquefois, de maisons, l'utilisation de ces roues juxtaposées, ou bien l'immobilisation d'une ancienne charrette sur un gazon, est révélateur de cette fixation d'un mouvement solaire. Il me semble que c'est le soleil dans la verdure, si vous voulez, cette espèce de mélange du rouge et du vert. Alors, vous me parlez de Stanley Kubrick, il y aurait beaucoup à dire, parce que chez lui, la thématique de la charrette est très vaste. Du docteur Folamour, où l'on voit un personnage complètement fou se déplaçant dans une chaise de paralytique à celui que l'on voit dans l'Orange Mécanique où une des victimes d'Alex se retrouve clouée, en passant par Beryl Lyndon où l'on voit un homme de l'aristocratie du temps transporté par une chaise à bras. Ce qui fait que on a chez Kubrick une sorte d'utilisation de ce véhicule qui a une signification qu'il faudrait voir, mais dont l'échéance magistrale serait justement dans 2001, où l'on voit alors cette espèce de char solaire qui si l'on veut actualise le mythe de Phaéton, tel que le rappelle le décrit Ovid, par donc des moyens techniques extraordinaires, et l'on a cette espèce donc de nage morte dans le ciel. On pense à Apollinaire, nageur mort, suivrons-nous d'un ton cours vers d'autres nébuleuses, quelles sont-elles? Eh bien, je crois que c'est toujours le point aveugle de Faulkner et qui ne sera jamais trouvé. C'est notre espèce de suspension au monde, l'hameçon dans la langue, pendue au ciel que nous avons tous, et là, par le biais du cinéma, puis on est projeté dans le poudroiement de la Voie lactée, qui elle aussi est chariot, hein, faut pas l'oublier, ou qui fait partie de la même constellation stellaire. Et ceux qui vont, je crois, dans la salle de cinéma se mettre dans une grotte retrouvent finalement le noir, car la grotte c'est aussi le domaine de gore, tel que vous l'avez dans le domaine médiéval par l'alchimie des lettres. Et ce qui fait que l'enfant, pour revenir à lui si vous voulez, ou même le jeune que nous sommes tous, ou l'adulte qui veut rêver, qui veut se retrouver dans le plaisir de la chambre noire, et puis le fanatique de cinéma, et puis ben, tout un chacun qui va chercher ce qu'il peut trouver dans le contexte d'une solitude brisée, en descendant quelques marches pour retrouver dans ce milieu-là, eh bien s'il repart au ciel de dessous la terre, c'est peut-être déjà un petit peu de son destin qui se brise, et il est là dans une espèce de dualité qui se trouve niée pour quelques instants de plaisir avant de retrouver l'émergence donc, sous le soleil et le trottoir des villes.
C'était La charrette fantastique dans Les chemins de la connaissance par Paul-Georges Sansonetti avec Jean-Pierre Troidec. Cette émission était le 4e épisode d'une série de 5. Première diffusion sur France Culture le 23 juin 1983. Vous pouvez réécouter cette émission en ligne et la télécharger sur le site franceculture.fr à la page des nuits de France Culture.